Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag. Aujourd'hui, nous recevons une femme de verticalité dans un monde qui ploie, artisan d'exception, héritière d'une maison fondée en 1834, survivante devenue combattante, créatrice de beauté et voix libre qui refuse le silence. Donc Alexandra Sogefer. Sous le thème vertical, l'excellence française face à la tempête, nous allons parler transmission du beau, reconstruction intime, courage face à l'antisémitisme et attachement viscéral à Israël et à la France. Eh bien, bonjour Alexandra.
Bonjour Jean-Étienne.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci de me recevoir.
Eh bien, écoutez, vous avez donc repris en 2002 alors une boutique historique fondée en 1834, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait.
L'une des plus anciennes de Paris, donc petite fille et fille d'artisans, vous avez su allier donc tradition ancestrale et modernité. Qu'est-ce qui vous touche le plus aujourd'hui dans ce métier d'art et comment faites-vous pour transmettre ce flambeau de l'excellence française ? Une époque où, je pense que vous êtes d'accord avec moi, où tant de savoir-faire disparaissent.
Oui, oui. Alors, moi j'ai repris il y a 25 ans. Alors moi j'ai hérité du savoir-faire, pas de la boutique, mais j'ai hérité du savoir-faire puisque j'avais un grand-père qui était artisan, qui était sculpteur sur bois et sur bronze, puis qui a commencé à sculpter des poignées de parapluie. Et un jour, ma grand-mère a dit « Bon, ben, on va faire du parapluie ». Voilà comment ça a démarré. Puis ma mère a repris l'entreprise et moi, j'ai racheté cette boutique il y a 25 ans. Sauf qu'en 25 ans, les choses ont beaucoup changé. À la base, c'était du parapluie et j'ai diversifié. Maintenant, nous avons des accessoires de mode comme des étoles, des minaudières, des bijoux. Alors, tout est fait à la main. Et ce qui me tient à cœur, c'est de garder l'excellence à la française. C'est de garder, parce que finalement, les métiers d'art, ont une âme. Finalement, tout ce qui est fait à la main, une âme les habite. Alors, ça devient extrêmement difficile maintenant d'être artisan, puisque aujourd'hui, un artisan, il faut qu'il soit comptable, il faut qu'il soit gestionnaire, il faut qu'il soit avocat, il faut qu'il fasse de l'administratif. Et c'est pourquoi beaucoup d'artisans arrêtent, malheureusement. Moi, ce qui me tient à cœur, et vous verrez que tout est lié dans mes prises de parole, c'est je suis très exigeante, en tout cas exigeante avec moi-même, et c'est de faire perdurer le beau. Je pense que, alors, nos politiques ont tué l'artisanat. C'est très difficile aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, le plus difficile aujourd'hui, c'est de trouver des artisans.
Bien sûr.
C'est pas de vendre. Aujourd'hui, le plus difficile, c'est de fabriquer. Exactement. Il y a 25 ans, il y avait encore des fabricants de parapluies. Aujourd'hui, il n'y a plus de fabricants de parapluies en France. Quasiment plus. En tout cas, tout vient de Chine. Moi, j'ai pris la décision et voilà, je vous l'annonce. Nous arrêtons le parapluie. J'arrête le parapluie pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où tout vient de Chine, les matières premières sont de Chine aussi. Et ça ne fait pas partie de mon ADN. Ni de ma politique de vendre des produits chinois. Donc je préfère faire travailler les artisans dans d'autres domaines que le parapluie, ceux qui sont encore là, plutôt que de travailler avec les Chinois. Voilà. Parce qu'il est inconcevable pour moi de renoncer à la qualité. C'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas vendre un produit en disant au client, voilà, c'est quelque chose de bonne facture. Et ça ne l'est pas.
Ouais,
ça ne l'est pas.
De toute façon, il suffit de regarder, il suffit de se rendre sur ce que vous pouvez faire, en tout cas sur Internet, regarder un peu, et on le voit de toute façon.
Mais c'est à l'instar de beaucoup de métiers. Et vous savez, le savoir-faire, c'est pas seulement une technique, c'est une culture, c'est une exigence et c'est une façon différente d'aborder le temps.
D'accord.
Voilà. Donc, je pense qu'il voilà, il vaut mieux arrêter certains produits plutôt que de faire quelque chose qui ne nous ressemble pas, qui n'est pas l'âme française, qui n'est pas l'élégance à la française, qui n'est pas l'ADN français.
Et Alexandra, vous avez écrit un livre qui s'appelle Vertical, paru en 2023. Alors je crois que il est compliqué à trouver en ce moment, c'est ça?
Oui, il est difficile à trouver. On l'a même, je peux vous le dire, on l'a sorti de la vente puisque j'ai eu, par rapport à mes prises de position, un petit souci au mois de juin où j'ai eu la meute qui m'est tombée dessus. Donc on l'a sorti de la vente, mais effectivement j'ai écrit ce livre lorsque j'ai perdu mon père.
Alors justement, vous avez eu, je vous coupe, le courage de raconter une enfance et une vie d'adulte marquée par la maltraitance maternelle. Hein, vous y parlez de reconstruction, de verticalité justement retrouvée grâce à vos filles et à votre propre force. Ce témoignage a d'ailleurs touché des milliers de personnes. Qu'est-ce qui vous a donné l'élan de l'écrire, Alexandra? Et quel message d'espoir voudriez-vous adresser à celles et ceux qui vivent encore dans l'ombre de telles souffrances?
J'ai perdu mon père en 2023 et lorsque mon père est parti, je crois que ça a été un tel choc pour moi. D'abord, il fallait que je me réfugie dans quelque chose et c'est comme s'il me donnait l'autorisation de lever le voile, vous voyez aucun jeu de mots, sur l'ignominie. Et papa est parti, et bon, nous, on a une semaine de deuil, j'ai fait la semaine, et au bout d'une semaine, j'ai écrit. Je travaillais la journée, et j'écrivais toute la nuit. Toutes les nuits, pardon. Et je dormais 1 à 2 heures par nuit, ça a duré deux mois et demi. Et ça a été comme une thérapie pour moi. Alors, aujourd'hui, avec le recul, je me dis justement que je n'ai pas écrit avec assez de recul, puisque j'étais dans l'émotion, dans la tristesse, dans la douleur. Et en même temps, j'ai eu ce besoin viscéral de dire les choses. Vous savez, j'ai été, jusqu'à devenir femme, puisqu'elle m'a poursuivie jusque-là. J'ai été humiliée, j'ai été dévalorisée, j'ai été frappée, j'ai été isolée. Il y a les violences physiques, mais il y a les violences psychologiques. Et les violences psychologiques laissent des traces, laissent plus de traces. Alors évidemment, ça dépend, mais il est beaucoup plus difficile de sortir des violences psychologiques que des violences physiques. Et donc, quand on a vécu ça, les fondations sont extrêmement fragiles, sont extrêmement bancales, sont très destructrices, et ça implique des relations de soumission. Quel enfant, même enfant adulte, n'est pas dans la quête d'amour de sa mère ? Une mère, quand même, ça donne la vie. Donc, c'est vrai que quand j'ai sorti ce livre, c'était encore, et il n'y a que 3 ans, un sujet extrêmement tabou. Parce qu'on parle toujours des pères. Voilà, les pères sont méchants, les pères sont violents, les pères... Non, il y a des mères. Ouais. Il y a des mères qui sont même pas mal aimantes, qui sont des tortionnaires. Hein. Les marâtres. Marâtres, autrefois, c'était utilisé pour les belles-mères. Mais... voilà, maintenant, ce sont des mères, des marâtres. Donc, il faut accepter de ne pas être aimé de sa propre mère et se construire avec. Et c'est très difficile, cette acceptation. Une mère donne la vie. Une mère donne la vie. Donc, il est inconcevable, pour beaucoup de gens, de se dire qu'une mère peut ne pas aimer son enfant. Et pire, une mère peut vouloir détruire son enfant, peut vouloir mettre à terre son enfant. Donc, le chemin de la résilience est long, il est escarpé, mais on en voit le bout du tunnel, la lumière est là. Alors, les conseils que je pourrais donner, c'est d'abord se faire aider. Se faire aider parce que... Mais oui, parce qu'il est très difficile.
Ça voilà, reste quand tabou.
Exactement, puis quand on est dans... Et puis les gens ne vous croient pas. Les gens ne vous croient pas.
Oui,
c'est un sujet qui est tellement tabou. Les gens ne vous croient pas. Donc, il faut prendre conscience. Il faut sortir du déni. Il faut se dire que la quête, voilà, cette quête d'amour est vaine. Et puis ensuite, apprendre à se reconstruire avec force, avec résilience, se faire aider, se faire entourer. Alors moi, j'ai toujours eu beaucoup de chance dans ma vie parce que j'ai toujours été bien entourée. J'ai toujours été bien entourée. Et puis, aujourd'hui, vous voyez, je ne regrette rien de tout ce que j'ai vécu parce que finalement, cela m'a forgée, m'a donné une force et toujours cette envie de foncer. Toujours cette envie d'aller, ce besoin, j'ai envie de vous dire, parce que c'est un peu sauf qui peut, hein, quand vous vivez ça. Moi, j'ai dormi dans ma voiture pendant plusieurs semaines, j'étais à la rue, donc c'est sauf qui peut. Donc, vous prenez au plus profond de vous-même pour survivre. Voilà. Et ça m'aide aujourd'hui dans la vie.
D'accord.
Voilà.
Alexandra, juste une petite pause, un petit message pour les auditeurs de Radio Courtoisie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. Alexandra, ça passe très vite. Vous êtes à la fois créatrice, mère, donc, hein, et aujourd'hui une voix très écoutée sur les réseaux. Comment parvenez-vous à concilier cette vie d'entrepreneuse exigeante, comme vous l'avez si bien dit, avec votre engagement public si fort et si visible?
Waouh! Ça, c'est de la question.
Ah, bah oui.
Je crois que je ne cloisonne plus trop. Ceci étant dit, on peut être maman, on peut être entrepreneuse, on peut être citoyenne. Et une citoyenne qui refuse de faire semblant et qui refuse le silence. Mmh. Je crois que le silence, vous m'interrogiez sur Vertical, sur mon enfance, je crois que le silence est la pire des choses. Moi, le silence m'a habité pendant des dizaines d'années, puisque les gens se taisaient autour de moi. Et je crois qu'il est de notre devoir de dire les choses. Mm-hmm. Il est bien évidemment plus courageux de parler que de se taire. Après, très écouté sur les réseaux, je ne sais pas, mais en tout cas, les réseaux, pour moi, c'est un espace de liberté. C'est un espace où l'on peut dire les choses. C'est aussi un espace de responsabilité.
Mmh. Vous êtes actif quand même sur X et Insta. Oui.
Oui, plus sur Instagram que X. Mais alors, je ne sais pas si je suis très écoutée, mais en tout cas, j'ai une voix. Et si ma voix peut être entendue, bien tant mieux, parce que je pense pas être dans le faux. Alors bon, j'ai ma façon de dire les choses qui plaît ou qui plaît pas, on aime ou on n'aime pas, mais au moins les choses sont dites. D'accord. Et que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle ou quand je prends des prises de position sur les réseaux, je le fais toujours avec mes tripes, avec conviction.
Ah, alors, ça, clairement, oui.
Et c'est une façon pour moi de défendre la liberté, de défendre une identité, de défendre une transmission. Et c'est surtout un refus de l'effacement. Ouais. Puisque aujourd'hui, on veut tout effacer. Ouais, ouais. Aujourd'hui, paf, on passe un coup d'éponge et on veut tout effacer. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est ce qui atteint notre société. Mm-hmm. On veut tout effacer. On veut effacer notre culture, on veut effacer nos valeurs, on veut effacer ce qui fait ce qui est l'âme de la France, ce qui est l'entité de la France. On veut tout nous faire effacer. Et je crois que les gens parlent toujours « j'ai le droit de faire ci ». Non, on a le devoir de rester vertical, de rester debout et de dire les choses. C'est un devoir. C'est un devoir pour les générations à venir, mais c'est aussi un devoir vis-à-vis de nos aînés.
Exactement. Et vous avez d'ailleurs déclaré sur CNews, me semble-t-il, faire partie du camp de l'amour dans un pays où l'antisémitisme explose depuis donc le 7 octobre, entre autres 2023, et où certaines voix sont systématiquement censurés. Comment vivez-vous ce rôle de lanceuse d'alerte, hein, et avez-vous le sentiment que la France, donc patrie des Lumières, hein, est en train de perdre son âme face à cette vague de haine?
Oh, lanceuse d'alerte, je sais pas. Juste, je refuse le silence et je refuse l'effacement parce que je trouve que c'est profondément dangereux. Quant à Israël, oui, les Juifs sont face à la haine. Aujourd'hui, donc le 7 octobre, évidemment, a été une cassure nette et a amplifié cette haine. Mais j'ai envie de vous dire, je sais pas, c'est ce qui me choque le plus. C'est la haine ou le silence.
Oui.
Parce que le silence, par définition, cautionne la haine.
C'est ça.
C'est encore plus vicieux, c'est plus fourbe encore.
Mmh.
Et tellement de gens se taisent. Alors les gens ont peur. Peur. Mais peur de quoi? Peur de quoi? Vous savez, je le dis depuis le début, nous, le 7 octobre, avec mon équipe, d'ailleurs, je les embrasse, on avait formé une petite team pour que les otages rentrent à la maison, donc on a beaucoup communiqué sur les otages. Et j'ai tout de suite dit aux gens, j'ai dit, mais ouvrez vos comptes, parlez, dites, puisque le 7 octobre, tous les comptes se sont fermés.
Mmh.
Et c'est se plier, c'est leur donner raison.
Ça, clairement, ouais.
Et ça, pour moi, c'est inconcevable.
Et nous voyons aussi chaque jour hein, sur les réseaux, Alexandra, hein, et dans l'actualité, la résilience extraordinaire du peuple israélien, seul face à un monde souvent hostile. Vous qui êtes si proche d'Israël, quel regard portez-vous sur la situation actuelle et quel message d'espoir ou de fermeté voudriez-vous transmettre à nos auditeurs qui, bah, comme vous, hein, refusent le relativisme moral?
C'est vrai que les Israéliens ont cette capacité de vivre, de créer, de construire malgré les pressions, malgré les deuils. Il y a eu la Shoah, ils ont continué à vivre, ils se sont relevés. Il y a eu le 7 octobre. Vous allez aujourd'hui en Israël. C'est un pays, et tout de suite après le 7 octobre, moi j'ai fait le parcours de Nova. D'ailleurs, je trouve que ça devrait être obligatoire de le faire. C'est terrible ce que je veux dire, mais il y a de la vie dans le deuil. Voilà. Il y a de la vie au milieu des morts. Voilà. Et c'est vrai que les Israéliens ont cette force, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent se relever. En fait, l'existence d'Israël a toujours été remise en question. C'est une histoire qui est profondément enracinée. Ça fait plus de 3000 ans, malgré les tragédies, malgré l'histoire, que le peuple juif survit. Et dans survie, il y a vie.
Il y a vie.
Voilà. Et Israël, c'est la vie. Et voilà, on le dit, Am Israël Chai, Israël vivra. Et la sécurité d'Israël est constamment remise en question. Mais c'est pas une question théorique, c'est une question vitale. Après, je ne sais plus, vous me posiez une autre question.
Oui, je vous demandais aussi le regard que vous portez sur la situation actuelle et le message d'espoir ou de fermeté que vous voudriez transmettre à nos auditeurs.
Sur la situation actuelle en Israël, si vous voulez, aujourd'hui, Israël sont les seuls à faire le sale boulot. C'est-à-dire, ce que les gens n'ont pas compris, moi je me souviens, après le 7 octobre, ils disaient « Oui, mais nous, on n'est pas juifs, oui, mais ça ne nous concerne pas, oui. » Mais ils n'ont pas compris que c'est l'islamisme qui avait attaqué Israël le 7 octobre. Ce sont les islamistes. Ils ont la mémoire courte parce que des attentats, en France, on en a eu quand même quelques-uns. L'islamisme est une menace existentielle pour le monde entier. Pour le monde entier. Et aujourd'hui, les seuls qui s'attaquent à l'islamisme, c'est Israël. C'est Israël. Alors, avec l'aide des États-Unis en ce moment. Mais ce sont les seuls qui font sans aucun jeu de mots, le Tsahal boulot. Voilà, puisque c'est Tsahal, l'armée israélienne, qui fait le boulot. Mais voilà, donc, si vous voulez, pour moi, il est inconcevable aujourd'hui, non seulement d'attaquer Israël, mais c'est surtout que le monde entier devrait venir en aide à Israël. Mmh. Le monde entier. Ils ont quand même le monde entier, finalement, contre eux. Parce qu'encore une fois, le silence s'est cautionné. Et ils vivent. Et ils ont le sourire. Et ils dansent. Et ils chantent. Et ils continueront à le faire. Voilà.
Et vous incarnez aussi à la fois la plus belle tradition française de l'artisanat de luxe et un attachement viscéral à Israël. Pensez-vous que la France puisse encore être ce phare de civilisation qui protège ses enfants juifs et défend ses valeurs face à, justement, l'islamisme radical ?
J'aimerais pouvoir vous répondre sans hésiter, oui. Mais malheureusement, si on veut être honnête, je pense que nous sommes dans un moment de bascule. Et vous savez, quand les Juifs sont obligés en France de cacher leur identité, quand les Juifs sont obligés de changer de nom pour commander, je sais pas, à manger ou pour prendre un taxi, ça devient très grave. Ça devient très très grave. L'intimidation idéologique est un vrai problème. Est un vrai problème. La stigmatisation est terrible. Et je pense que l'idéologie politique et religieuse est incompatible avec les valeurs de la République. Mmh. Et c'est ce que subissent les Juifs. Mmh.
Et malgré toutes ces tempêtes, Alexandra, vous continuez à créer de très belles pièces, on en parlait en début d'émission. Quels sont vos projets actuels pour la Maison AS et comment l'amour du bel objet vous aide-t-il au quotidien à rester debout ?
La création, vous savez, c'est une façon aussi de résister et de tenir debout. Je crois que... D'ailleurs, c'est aussi une thérapie. L'art est une thérapie. Il existe l'art-thérapie. C'est une façon de s'évader. Et puis c'est en même temps une question de rester enraciné, parce que vous devez rester dans la réalité. Et le beau apaise. Le beau se transmet. La transmission, c'est très important. C'est important. Et vous voyez, tout se regroupe. Dans le judaïsme, la transmission est très importante. Dans l'art, la transmission est aussi très importante. Et transmettre nos valeurs, transmettre notre ADN, l'ADN de la France, c'est très important. Donc concevoir, imaginer, choisir, partager, ça oblige à rester enraciné. Moi, je suis très attachée aux racines.
Et pour terminer, puisque ça passe très vite, hein, malheureusement...
Trop vite, hein.
Trop vite, mais je vous réinviterai, si vous le voulez bien.
Avec grand plaisir.
On va terminer sur une note d'espérance. Hein. Ah. Si vous aviez un seul message à adresser aux auditeurs de Radio Courtoisie, des femmes et des hommes attachés à la France, je ne vous apprends rien, à la vérité, au courage, bah, quel serait-il ?
Parler, dire... Les gens n'osent plus parler, les gens n'osent plus défendre, les gens ont peur des mots. Non, il faut dire les choses. C'est très important parce que ne pas parler, c'est donner raison aux autres, c'est cautionner encore une fois. C'est aussi grave que de faire. C'est pareil pour moi. C'est pareil, et c'est même pire, parce que ne pas dire, vous savez, quand vous répondez pas à quelqu'un, il peut tout imaginer, il peut imaginer tous les scénarios, il vaut mieux dire les choses que de ne pas dire. Et je pense que il faut défendre les cultures, il faut défendre notre culture, il faut défendre nos valeurs, il faut défendre notre ADN, parce que ne pas le faire, c'est renoncer, et c'est contribuer à l'effacement de tout.
Donc, c'est, oui, pour vous, c'est limite plus dangereux de ne rien dire que de...
Oui, et puis, ne jamais laisser la peur prendre le dessus. C'est très important. Il faut prendre exemple sur les Israéliens.
Alexandra Sauchefer, pardon, merci en tout cas, c'est passé très vite, hein, du fond du cœur pour cet échange, c'est le cas de le dire, d'une rare verticalité.
Merci Jean-Étienne.
C'est sincère, vous nous avez rappelé donc, que l'excellence française n'est pas un souvenir, mais un combat quotidien, que la beauté se crée même au milieu des tempêtes, et que la vraie résilience, c'est de rester debout quand tout vacille. À travers votre parcours, votre maison AS, votre témoignage et votre engagement, hein, vous incarnez cette France qui refuse de plier, c'est-à-dire celle de l'artisanat d'exception, du courage et de la vérité. Donc vraiment, encore merci d'avoir accepté.
Merci Jean-Étienne, merci à Radio Courtoisie, avec grand plaisir.
Et chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous.
Il faut donner des sous, Radio Courtoisie, jolie radio.
À mercredi prochain et bonne semaine.